Les pieds sur terre, Sonia Grönlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comment les choses arrivent.
Le film de Jacques Demy, sorti en 1973, s'appelait « L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune ». Marcello Mastroianni, moniteur d'auto-école moustachu et un brin macho, après avoir consulté un médecin pour d'étranges malaises, il découvrait qu'il était enceint de 4 mois. Un événement qui ne manquait pas de bouleverser la vie de son entourage et de faire réfléchir les spectateurs. La réalité dépasse désormais la fiction. Car l'histoire que nous vous racontons aujourd'hui est bien celle d'un homme enceint, Ali. Ali est né femme, avec un autre prénom, mais s'est longtemps questionné sur son genre. Il n'est pas cis, c'est-à-dire qu'il ne se reconnaît pas dans le genre qu'on lui a assigné à la naissance, ni dans son prénom. Au fil de son parcours, en marge de la loi, il prend des hormones, notamment de la testostérone, pour entamer ce qu'on appelle une transition. Il devient un homme trans tout en faisant le choix de garder ses organes reproducteurs féminins. La question de son orientation sexuelle, à ne pas confondre avec celle de son genre, est plus mouvante, elle évolue. Enfin, en gros, il aime qui il veut. En fait, plutôt des femmes homo avant et maintenant des hommes homo. En tout cas, maintenant Ali se sent clairement du genre masculin. Il a un H au lieu d'un F sur sa carte d'identité et un 1 à la place du 2 sur sa carte vitale. Lorsqu'il devient enceint, son expérience est tout à fait inédite en France. Car jusqu'en 2017, notre doux pays interdit aux personnes transgenres de procréer naturellement. Ils ou elles doivent renoncer à la naissance par voie naturelle et à la parentalité par une stérilisation imposée, une vasectomie ou une ablation des trompes. La France a d'ailleurs été condamnée pour la stérilisation imposée aux personnes trans par la Cour européenne des droits de l'homme. Ali est donc le premier, à ma connaissance, à être enceint en étant légalement un homme et officiellement la première personne transgenre à être reconnue comme parent en France. Avec son compagnon François, il nous raconte donc l'histoire merveilleuse de cette conception et de cette naissance, dans ce qu'ils appellent évidemment la transernité d'Elila, pour ne pas dire la maternité, vous l'aurez compris. Et c'est un récit de Clémence Alézard.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Moi, c'est Ali, j'ai 40 ans. J'ai commencé les hormones en 2006. Donc, on est en 2020, ça fait 14 ans que je prends des hormones. Mais j'ai pris des hormones un peu à la sauvage. Il y a 14 ans, je suis passé par un parcours très, très alternatif. J'étais une gouine, androgyne, très androgyne en questionnement. Et je suis allé chez le médecin, j'ai dit « Ah là là, je suis en vacances ici, j'étais à Montpellier, j'ai oublié mes hormones, il faudrait m'en represcrire, s'il vous plaît, que je fasse mon injection ». Elle m'a prescrit de la testostérone et ensuite j'ai été suivi quand même par un endocrinologue à la fin de l'été où je me suis dit bon là vraiment je veux commencer un traitement hormonal, j'aime l'effet que ça a sur mon corps, sur ma voix, sur puis même ce que ça m'apportait intérieurement comme ancrage en fait. Il y avait un manque pour moi à cet endroit-là et c'est voilà, j'ai commencé les hormones comme ça. J'ai vu un psychiatre le jour où j'ai dû faire mon changement d'état civil pour qu'il valide mon changement d'état civil. Mais j'ai jamais vu de psychiatre pour commencer ma transition. Mon changement d'état civil, ça a été le fait de changer mes papiers. Donc il faut passer au tribunal administratif pour ça, tribunal de grande instance. Et donc du coup, j'ai fait changer ma carte d'identité et ma carte vitale de fait. Et quand j'ai rencontré François, donc on se connaissait déjà depuis un moment quand on est tombé amoureux l'un de l'autre, on était des camarades militants, on militait ensemble, on se rencontrait aux manifs, on se rencontrait à des réunions, etc. Et puis finalement, un jour, on s'est dit que ce serait chouette de dîner ensemble et on a beaucoup, beaucoup parlé de parentalité. Je sais pas si en tant que mec trans, je me sens de porter un enfant parce que j'en ai la possibilité. En même temps, l'idée m'intéresse autant que me questionne. Ça me rebute pas, ça me questionne surtout. Et François était quelqu'un qui me plaisait beaucoup. Mais il était pédé. Moi, je suis un mec trans qui relationnait exclusivement avec des meufs cis. Donc des femmes nées femmes. Lui, comme il était BD cisgenre, donc un mec qui se définit mec et qui a été assigné garçon à la naissance, c'était pas quelque chose qui faisait partie de mon imaginaire, de mon désir. Enfin, mon désir n'allait pas forcément de façon claire vers François, quoi. Et ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Et donc, je lui ai dit que je voulais un enfant avec lui. Et donc, il était ravi. Mais il savait pas. Ça a été ni oui ni non. Et puis, au bout de 2 ans, je lui ai dit que j'en avais un peu marre d'attendre, que j'avais pris des hormones pendant très longtemps, que j'avais vraiment ce désir-là. Et que il savait que pour moi, il y avait quand même un enjeu. Et puis après, finalement, je lui ai posé une vraie délai en disant là, à cette date-là, tu me donnes la réponse. Et il a attendu très, très tard dans la journée pour me le dire. Mais il avait du champagne, il avait des trucs trop mignons. Enfin bon, il a fait un truc trop, trop mignon. Et puis après, il y a eu tout le processus pour que je puisse tomber enceinte et notamment l'arrêt des hormones. Il y a un mythe autour de la prise d'hormones que prendre des hormones pendant très longtemps, la testostérone induirait forcément une infertilité. Moi, je faisais un an d'hormones, 4 ou 5 mois d'arrêt. Je reprenais un an d'hormones, 4 ou 5 mois d'arrêt. Il n'y a pas d'études qui sont faites sur nos corps transhormonés. Et donc, du coup, il y a ce mythe qui voudrait qu'on soit infertile quand on prend des hormones, et c'est faux. Le fait de prendre de la testostérone ne rend pas infertile. Il y a des hommes trans qui sont tombés enceintes en prenant des hormones quand ils ont raté une ou deux injections et repris l'injection intramusculaire d'après, qui étaient déjà enceintes. D'autres gens comme moi qui se sont arrêtés en 6 mois, pouf pouf, en un seul essai, ça a fonctionné. D'autres qui galèrent plus, mais comme toutes les personnes qui ont un utérus peuvent galérer plus ou moins pour tomber enceinte. Et du coup, je sentais qu'il y avait un truc bizarre qui se passait. Mais je savais pas si c'était parce que j'étais enceinte, parce que j'étais dans ce mythe. Ouais, mais quand même, on a essayé qu'une fois, c'est quand même bizarre. Ça peut pas être ça et tout. Et je prends le métro et je suis extrêmement sensible à la lumière, au bruit et aux odeurs, avec ou sans grossesse. Et là, c'était quand même très très fort. Donc je me suis dit, ouais, putain, je suis fatigué, je sens tout vraiment très fort, ça m'envahit, quoi. Et j'arrive sur le quai du métro et j'avais l'impression d'être à l'entrée de Sephora. Et en fait, à mes pieds, il y avait 2 petites lamelles comme ça de parfum qui, je pense, personne ne sentait. Et là, je me suis dit, genre, faut que je fasse un test de grossesse, je pense que c'est bon, quoi. Et donc j'ai fait mon test de grossesse, il était positif. J'ai envoyé un texto à ma mère qui était très contente, mais ils étaient au courant aussi en amont qu'on avait ce projet-là avec François. Et c'était important pour moi, d'avant d'être enceinte, quand bien même ça ne marchait pas, qu'ils continuent de respecter mon identité de genre, qu'ils ne me disent pas, tu vois, finalement, la nature a repris ses droits. Tu fais un truc qui était attendu de toi parce que, en fait, au fond, t'es une femme. Et j'avais très peur de ça. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'appréhende dans les discussions autour de la parentalité, de ma grossesse, avec des personnes que je connais pas. Le moment où j'ai annoncé à François, j'ai attendu qu'il rentre. Et je trépignais. Et donc il est rentré du taf et je tenais plus. Et je sais pas pourquoi, je lui ai pas dit direct. Je n'ai pas réussi à lui dire et je ne savais pas comment lui dire. Et j'ai attendu le lendemain. Et c'est que le lendemain que je lui ai dit que j'étais enceinte. Mais c'était très beau, la façon dont il a réagi, l'émotion qu'il a traversée, qu'il nous a traversée. Il y avait un truc très fort. Je me rappelle de son visage. Mais il a dû dire un truc un peu con. Je suis sûr qu'il s'en rappelle, mais je pense qu'il a dû dire un truc un peu maladroit, un peu à côté. Mais je me souviens fort de son visage et de notre émotion, de la sienne. Voilà.
Je m'appelle François, j'ai 41 ans. Devenir parent, c'était pas un horizon de ma vie, d'homosexuel, de gay. Par exemple, j'ai mis du temps avant d'annoncer cette grossesse à certains de mes amis proches, d'autant que le mode de conception de Salomé, pour le coup, est le mode de conception de n'importe quel être humain depuis que l'humanité est humanité. C'est-à-dire que nous avons fait un enfant comme n'importe quel duo de personnes, mâles et femelles, peuvent le faire. Avec ce risque potentiel qu'on plaque sur Ali et moi, une lecture hétérosexuelle de notre projet de parentalité. Ce qu'il n'est pas. Aucun de nous n'est hétérosexuel, en fait.
Il y a eu l'échographe.
Il n'a pas compris quand il nous a vus dans la salle d'attente. Donc je lui ai dit, en fait, c'est moi qui viens, je suis enceinte. Il m'a regardé, il a dit, d'accord, vous êtes trans, ok, on y va. Et voilà, et donc du coup, comme l'histoire avec la sécu n'était pas réglée, il faisait passer d'autres soins, plutôt que les soins de l'échographie, pour que je puisse être remboursé à 100% jusqu'à ce que ce soit réglé. Enfin, c'est lui qui a proposé ça, quoi. Il a dit, ah bah oui, tiens, je vais faire ça, comme ça, c'est le même prix, c'est bien, vous êtes remboursé, moi aussi, bon, on verra comment ça se passe. Il était vraiment super. Le refus de soins, ça vient du fait que mon numéro de sécu commence par un 1 et que du coup c'était déconnant pour les nomenclatures de remboursement, parce qu'un remboursement de grossesse, même de soins gynéco, ne se fait qu'à des numéros 2. Moi, je n'attendais pas autre chose de la sécurité sociale. Je ne vais pas leur demander de penser à la marge de la marge de la marge. Par contre, j'exigeais qu'ils puissent y répondre, ce qu'ils ont fait.
Et je me suis retrouvé à être le partenaire d'une personne enceinte, à l'accompagner dans tout ce processus et à moi-même me construire en tant que futur parent biologique d'une personne en ayant suivi toute la grossesse, les examens médicaux, les échographies, etc., etc. Ça m'a plu d'être présent, de voir ce processus se faire. Je pense que ça n'a pas été toujours simple malgré tout. C'est-à-dire que sur le plan de ma vie intérieure, je pense que j'ai vécu 9 mois compliqués. Ma peur première, c'était une agression physique sur Ali. Ça n'est jamais arrivé. Finalement, il est passé sans forcément que les gens se rendent compte qu'il était enceint. Ce qui est fascinant quand même, parce qu'à partir du 5e, 6e mois, 7e mois... En plus, Ali, il a un petit gabarit, il est très mince, donc il commençait à avoir un beau ventre de personne enceinte. Et même si il a pas tellement changé de look, et qu'il a plutôt porté mes vêtements, qui étaient plus confortables, à ce moment-là, bah, en même temps, voilà, c'est quand même un homme enceint.
J'étais enceinte 5 mois, ça commençait à se voir. Il allait falloir que je parte quelques mois plus tard en congé transernité. J'ai dû dire à mon employeur que j'étais un mec trans, alors que j'avais été embauchée sans jamais parler de ma transidentité. Il y a eu un petit choc des cultures avec la DRH le jour où j'en ai parlé. Elle a été maladroite, mais pas malveillante. Enfin, j'ai quand même dit à ma DRH, bon bah voilà, je suis trans, oui et ok. Bon d'accord, elle avait la Bible posée sur son bureau. Et donc du coup, elle a eu un temps d'arrêt, ce à quoi je m'attendais. Moi-même, j'étais pas très à l'aise, ça me faisait ricaner, ça me faisait rire, mais aussi de nervosité. Elle m'a dit, oui, bon, bah, et alors, c'est quoi l'enjeu par rapport au travail? Pourquoi tu m'en parles? J'ai dit, mais parce que je suis enceinte. Et là, elle a rien compris. Et elle m'a dit, attends, je comprends pas, mais tu vas le garder? J'étais genre, ben, quand même, t'as la Bible, là, sur ton bureau, t'es pas censé être pro-avortement, hein. Donc, bon. Oui, je vais le garder, c'est pour ça que je te le dis. Donc c'était un moment un peu... moi, je me sentais fier, là, légitime. Mais sa réaction, elle m'a un peu déstabilisé. J'étais genre, mais what the fuck, c'est quoi ce truc, quoi? Dans l'espace public, les gens se retournaient sur moi, surtout les femmes. Les femmes, elles captaient que c'était pas une pancréatite, que j'avais pas bu beaucoup de bière, que c'était pas ça qui se passait, mais il y avait un petit temps. Donc elles me regardaient, elles voyaient mon ventre, elles me regardaient de nouveau dans les yeux, elles redescendaient, elles faisaient un peu le screen, et après elles se retournaient un peu arrêtées, quoi, un peu interdites. Et une autre voisine de l'immeuble qui m'avait fait des remarques sur mon corps, c'est une dame qui a plus d'une 60aine d'années et qui donc est un peu hippie avec des méthodes de santé alternatives et qui du coup me proposait de m'aider avec mes problèmes de digestion. Ce jour-là, elle me dit « Non mais Ali, quand même, ton ventre, il a vraiment gonflé. Est-ce que je peux toucher ?» Et j'étais pas loin d'accoucher et Salomé bougeait beaucoup. Et je lui dis « Non, tu me touches pas. » Et donc elle me demande de lui montrer, on était dans la rue quoi, elle me demande de lui montrer des endroits, d'appuyer à des endroits, donc je touche à un endroit, elle m'a dit, ah ouais non mais là c'est des gaz Ali, faut faire quelque chose. Si tu veux je te ferai une petite liste de choses qu'il y a à prendre en homéopathie, d'accord, tu me le donneras, et puis voilà. Cette grossesse c'est une des expériences la plus folle de ma vie. Très clairement, faire une double mammectomie, donc une opération du torse, prendre des hormones, me masculiniser, changer mes papiers, c'est quand même assez intense. Bah, la grossesse, c'était encore plus fort. J'adorais mon corps gros. J'adorais mon gros cul, mes grosses cuisses, mon gros ventre. J'avais pas de seins, donc c'était parfait. Tout était chouette, en fait.
Et alors, par ailleurs, comme on est naturiste, ben on a passé une partie de nos vacances d'été, donc on était déjà au sixième mois, je pense, sur des plages naturistes. On sentait dans le regard de certaines personnes sur la plage naturiste que là c'était un ovni, quoi. Enfin, c'était un ivni, quoi. C'était un individu, bon, bref, non volant, non identifié. Mais au point que là, ça a pu être un peu gênant, parce qu'il y a eu des regards très persistants, très insistants, des gens qui en parlaient entre eux de lui, mais pas de réaction agressive. Et donc j'avais suivi, en bon partenaire d'homme enceint, j'avais suivi les cours de préparation à l'accouchement.
Ah oui, il y a eu les cours de préparation à l'accouchement, mais je suis allée qu'à deux parce que c'était trop. Après, les conseils qu'elles ont donnés, en tout cas sur les cours où je suis allée, étaient géniaux, mais l'ambiance générale était trop hétérosexuelle, trop dans l'impensé d'une prise en charge à côté, et c'est toujours le papa qui accompagne la maman à machin, ou monsieur et madame, c'est juste pas possible. Voilà. Donc nous, on savait plus qui était monsieur, qui était madame. Et je pense que pour des Gwyn, ça se joue au même endroit, quoi. Donc, mais elles ont fait l'effort de dégenrer, et c'était trop nouveau, je pense. C'était trop nouveau, trop compliqué. Je pense marginal dans leur pratique. Voilà.
Je m'appelle Céline Lenégaré, je suis sage-femme à la maternité d'Elila. J'ai accompagné Ali pendant sa grossesse. J'avais jamais accompagné de personnes transgenres avant Ali. Donc quand on m'a demandé si je pouvais faire le suivi de grossesse, j'avoue que j'étais assez partagée au départ. J'avais peur d'être maladroite ou de faire des choses inappropriées et du coup peut-être... qu'ils le perçoivent comme quelque chose de malveillant. Du coup, dès que je l'ai su, j'ai lu pas mal de choses et j'ai essayé d'apprendre pas mal de choses sur la question de personnes transgenres, la transidentité. La question de la transidentité, finalement, c'était pas quelque chose que je m'étais beaucoup posée. Je savais pas dans quelle mesure l'arrêt des traitements hormonaux pouvait avoir un impact sur le déroulement d'une grossesse, la prise de ces traitements pouvait avoir un impact au niveau anatomique. Enfin, voilà, c'est des questions que je me posais. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que Ali, toutes ces questions, il se les a posées bien avant nous. Et du coup, c'était lui, en fait, qui me rassurait aussi et qui me donnait des éléments de réflexion par rapport à ça. Ça a changé finalement pas tellement dans le suivi de grossesse après, le fait qu'Ali soit une personne transgenre, mais ça m'a, moi et Corinna Palais, ma collègue psychologue, beaucoup plus mobilisée, puisqu'on a voulu qu'on ne soit pas les seuls à être informés qu'Ali va aller venir pour accoucher et que tout le monde soit attentif à ce que ça se passe bien pour eux. On a fait venir une association avec un formateur qui était une personne trans, qui a, pendant une après-midi, parlé de cette question-là avec des soignants de la maternité. Et ça, ça a été vraiment un moment assez fort, parce que de voir que finalement, c'est la personnalité de la personne qui est là qui est importante et pas son genre, quoi. Enfin, c'est Ali, quoi. C'est pas la question de, est-ce que c'est un homme, une femme C'est une personne enceinte, en fait. C'est vrai que assez... Je sais plus quand c'est venu, mais Ali parlait de la maternité en disant la transernité d'Elila, et c'est vrai que j'avais du mal... Enfin, pas qu'ils le disent, mais moi, à adopter ce langage, quoi. Voilà. Alors après, maintenant, c'est quelque chose qui est intégré pour moi, mais c'est lié à Ali. Je ne peux pas le lier à toutes les personnes qui viennent accoucher ici. Je suis vraiment contente d'avoir pu les accompagner. Je pense que je suis peut-être un peu plus ouverte et tolérante par rapport à la question de la transidentité, même si j'étais pas intolérante, mais j'étais ignorante, on va dire, et je pense que l'ignorance, c'est jamais très bon, quoi. Voilà.
c'est un vrai cadeau de les avoir croisés.
Et ensuite, bah, y a eu l'accouchement. Donc là, il y a eu quand même pas mal de soignantes, quelques soignants.
Donc j'étais bien préparé. Du coup, j'ai vécu l'arrivée à la transernité, le déclenchement, mais alors le déclenchement bio et tout ça. Et puis le moment où je suis à la maison et où Aline téléphone en me disant « j'ai perdu les os bah, ». Un truc tellement... drôle, il faut venir très vite. Je me suis retrouvé à aller très vite à la transernité, genre bon bah ça y est, ça commence, c'est enclenché, allons-y.
Là l'accompagnement il a vraiment été super, déjà parce que elles avaient respecté et elles avaient compris l'enjeu du fait que je sois dans une chambre seule. Bah voilà, j'avais pas envie du tout de gérer ma transidentité avec une voisine de chambre et ça c'était vraiment salvateur. Et puis les sages-femmes pendant l'accouchement, donc comme j'ai été déclenchée, il y a eu 3 sages-femmes, ça a duré quasiment 36 heures. Mais 36 heures en comptant le déclenchement, c'est-à-dire que je suis arrivée la veille, je voulais pas de déclenchement hormonal, donc j'ai demandé un déclenchement mécanique, ce qui est quand même plutôt rare. Et je pense qu'elles étaient aussi surprises qu'un mec trans se dise « Non mais ok, tu me mets des ballons d'eau dans l'utérus, c'est très bien, ça va l'ouvrir, moi je veux pas de produit. » C'était bon, voilà. Mais elles étaient ok, c'était chouette, parce que ça se passe plus en plus ou moins longtemps que les ballons tombent, parce que ça se gonfle, l'utérus s'ouvre, et puis du coup, ils tombent, et que tout se déclenche, quoi. Donc, bah, moi, il m'a fallu une nuit. Voilà. Donc voilà, et... Enfin, elles étaient incroyablement douces, gentilles, attentives, elles respectaient tout le plan d'accouchement, enfin, c'était incroyable, quoi. Genre, j'ai une phobie des piqûres, et j'avais demandé un protocole spécifique pour m'avertir avant de me piquer, de montrer l'aiguille, de dire ce qu'elles allaient faire et tout ça. Et elles le faisaient toutes. Il y a eu un souci avec l'anesthésiste, le seul mec cis de la bande, qui lui a pas du tout pris en compte ma phobie des aiguilles et qui ne parlait pas. Et je me souviens d'un sentiment fort de détresse et où je demandais pourquoi il ne me parlait pas et pourquoi il ne me disait pas ce qu'il allait faire et que j'en avais besoin. Et il y avait cette sage-femme incroyable qui était en plus trop belle qui me disait « parce que c'est un médecin ». Et les médecins, malheureusement, ils parlent pas. Et là, je me suis énervé en disant « c'est pas juste un médecin, c'est pas ça, c'est un vieux mec cis hétéro, je suis sûr, c'est aussi pour ça, il y en a marre de ces médecins hétéros, j'en ai marre ». Puis là, elle quand même... Non, quand même, Ali. Mais elle ricanait. Et je disais, oui, mais si c'était une grosse gouine, elle ferait pas ça, elle me parlerait, elle serait trop gentille. Et ça la faisait rire. J'étais vraiment en détresse. Et il laissait faire. Je pense qu'il a vu pire. Il a même pris les photos quand Salomé était contre mon visage et contre le visage de François, juste après sa naissance, quoi. Il était, en fait, je pense que c'était quelqu'un de gentil, mais c'est effectivement un toubib, mec, cisgenre hétérosexuel. Et vieux.
J'ai eu un peu peur jusqu'à la fin. Je me souviens très bien de ce moment troublant où nous allions partir au bloc et où là je me suis dit, donc Salomé allait naître dans le quart d'heure ou la demi-heure. Et là je me suis dit, mais que se passera-t-il si je n'aime pas cet enfant ? C'est-à-dire, que se passera-t-il si cette fameuse rencontre dont on nous rebat les oreilles, là, les yeux dans les yeux, ce truc un peu magique là, ne se passe pas. Et là, j'ai vraiment été tout à fait pas bien. Très vite après, Salomé était née. Elle s'est retrouvée dans mes bras. On a fait du pot à pot pendant 1h30 ensemble. Et ça a effectivement été magique. Et ce truc des regards qui se rencontrent et qui se croisent et qui se reconnaissent, enfin en tout cas où il se passe un truc, bah en fait je l'ai vécu.
Oui, raconte-moi des choses, je t'écoute.
Là.
Là. Hop. Allez, on y va. Bravo, Boubou.
Je pense que je suis le seul en France à avoir accouché d'un enfant avec un changement d'état civil au masculin en étant reconnu comme parent biologique masculin, donc comme père, avec un autre père, sans passer par des années et des années de tribunal, sans passer par l'adoption.
On s'est retrouvés face à 3 magistrats, qui étaient à la fois un peu gênés, à la fois très compréhensifs, qui ont affiché explicitement leur objectif, qui était de sécuriser la filiation de Salomé et qui était de sécuriser notre parentalité. Ce qu'ils se sont dit, c'est finalement, vous n'êtes pas dans une situation différente de celle des couples hétérosexuels sur le plan biologique. Bien évidemment, le code civil ne permet pas que vous soyez les deux parents, sauf qu'en fait, vous êtes les deux parents et personne ne pourra jamais le contester parce que biologiquement, c'est vous. Donc cette double filiation de deux hommes, il semble que nous ayons été les premiers. La figure du père, bon, moi je serais le doux de Salomé parce que c'est comme ça que j'ai choisi qu'elle m'appelle. Doud. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, voilà. Donc c'est comme ça, peut-être que Salomé m'appellera. Et si elle m'appelle papa, ça ne me dérangera pas. Ça me fera drôle, vis-à-vis de ma construction personnelle depuis très longtemps. Tiens, je suis le papa de quelqu'un. Waouh! Mais aussi, une des raisons pour lesquelles je n'emploie pas le mot père, c'est peut-être aussi parce qu'Ali est un homme trans qui a porté Salomé, et que je n'ai pas envie, en me désignant père, que potentiellement d'autres le désignent implicitement ou explicitement comme mère. Parce que finalement, des gens de mon entourage très bien intentionnés, bienveillants, qui n'ont aucune difficulté avec notre parcours, prennent la réalité biologique de la conception de Salomé pour désigner Ali comme la mère. Ben en fait, non. C'est effectivement le géniteur, il a été un parturiant, il a été un homme enceint, il a été tout ça, c'est vrai. Mais pour autant, non, c'est pas la mère en fait.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Salomé. Joyeux anniversaire.
Bravo, on souffle, regarde. Hop là.
Bravo! C'est ton premier anniversaire.
Par rapport à la façon dont j'ai été entouré et dont on a été entouré et accompagné par nos proches, par la famille, par les amis, par l'environnement direct lié aux soins, je sais que je suis un peu privilégié. J'ai pas eu de rupture familiale nette qui m'a pas compris ou qui m'a nié ou qui m'a renié. J'ai pas vécu ça. Et j'ai envie de partager cette force qui m'a été donnée. Mais je veux pas laisser croire ni à ma communauté, ni à ceux qui sont censés être nos alliés que tout est toujours aussi chouette, quoi. Oh.
Come home, the grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim.
Tu vas faire dodo avec Gollum.
Come home, Jimmy, cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die.
C'était Enceint, un reportage de Clémence Aleza, réalisé par Clémence Grosse, mixé par Pierre Monteil. Merci bien sûr à Ali et François, à Salomé, à la maternité, ou plutôt la transcernité des Lilas, à l'association Outrance, à l'association Acceptest. Merci également à Arnaud Kram, aux Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, à Mélissa Fousse, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et à Victor Candelaft, notre stagiaire.